Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
La première mention de Zaché paraît dans l'édition de Vesoul de l'Est républicain le 24 juillet dernier. L'article évoque la disparition d'un jeune homme de 16 ans dans le domaine du Val de Bonal, non loin de Vesoul donc, 150 hectares de verdure avec 5 plans d'eau pour tous les passionnés de nature, précise l'Office du tourisme. Des jeunes sont venus se baigner donc et prendre le soleil avec leur centre de vacances. Ils sont accompagnés par 5 animateurs. Au moment de partir, les encadrants remarquent qu'il manque un adolescent. Peu à peu, ils se rendent compte qu'ils ne l'ont pas vu depuis plusieurs heures. Lorsqu'il retrouve sa serviette et son téléphone intacts au bord de l'eau, la panique s'empare de la petite troupe. Les pompiers sont appelés au secours et arrivent en force. Ils sollicitent des plongeurs qui commencent à explorer le fond du plan d'eau. Lorsqu'ils découvrent enfin le jeune homme inerte, ils tentent de le réanimer en vain. Que s'est-il passé au juste? Comment ce jeune homme a-t-il pu se noyer, rester sans surveillance? A-t-il été victime d'hydrocution? Savait-il seulement nager? Et surtout, qui était Zaché? D'où venait-il? Que faisait-il à Besançon? Valérie Borst s'est rendue sur place et essaie pour vous de répondre à certaines de ces questions et de reconstituer le parcours de ce jeune homme étonnant.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
J'arrive à Besançon un dimanche midi, 15 jours après la mort de Zaché. C'est aussi l'Aïd El Kébir. Une dizaine de personnes s'est réunie autour d'un pique-nique au bord de la rivière. Elles font partie de l'association Sol Miré, avec des solidarité, migrants, réfugiés. Il y a Jean-Jacques, Noël, Janie, Delphine, quatre générations de bénévoles très impliqués dans l'accueil des étrangers, qui connaissaient tous Zaché.
Bonjour.
Très vite, il me parle d'un petit carnet retrouvé dans les affaires de Zaché par les gendarmes sur le lieu de la noyade. Janie m'en montre deux pages. Elles sont tapées à l'ordinateur, d'un bloc, presque comme un procès-verbal. C'est ce que l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, appelle un récit de vie. Un document écrit à quatre mains avec Janie, qui retrace précisément le parcours de Zaché, depuis son départ jusqu'à son arrivée en France. Il l'avait commencé comme ça. Je m'appelle Zaché Otu Kumata, je suis née à Douala au Cameroun le 10 octobre 2004. De père inconnu et abandonné par ma mère à ma grand-mère. J'ai été élevée par ma grand-mère et je suis allée à l'école jusqu'au CM2. Sans argent, ma grand-mère n'a pas pu continuer à payer l'école. Alors en janvier 2018, ma tante et moi avons quitté Douala pour rejoindre l'Algérie par le Nigeria et le Niger. Son copain Moussa était passeur. Ma tante l'a alors convaincue de m'emmener avec le groupe de migrants. Je ne sais pas si elle a payé pour ça. La traversée du désert en pick-up par le sud a duré 3 jours, jusqu'à Debded, avant la frontière entre l'Algérie et la Libye. En Libye, Zaché passe un mois plus ou moins prisonnier à attendre de partir. Il continue son récit de vie en écrivant. On nous a amenés au bord de la mer, en pick-up, entassés dans la cabine, allongés ou empilés les uns sur les autres, avec par-dessus des brouettes, des pelles et des pioches pour faire croire qu'ils travaillaient sur un chantier. Nous ne pouvions plus respirer. On était frappés si on se plaignait. Nous sommes restés cachés jusqu'au départ. C'était la nuit, vers 21h, à 140 dans un Zodiac. Nous avons été récupérés le lendemain par la marine italienne, vers 14h, qui nous a expédiés dans différentes directions en car. Moi, je suis arrivée dans la campagne près de Naples. En mars 2019, au bout de 9 mois, j'ai décidé de partir en France. Nice, Marseille, Lyon, Menton. Là-bas, j'ai rencontré un autre migrant qui attendait de l'argent pour rejoindre sa mère à Besançon. Il m'a donné son numéro de téléphone en me disant que peut-être sa mère pourrait m'héberger. Le récit de vie de Zaché s'arrête sur ces lignes, quand il arrive à Besançon. La suite, c'est Janie qui me la raconte. Elle a 39 ans, elle est instite, et elle vit avec sa fille qui va avoir 14 ans et son chien. Au début, elle aidait l'association en donnant du matériel scolaire, des vêtements, de la nourriture. Et puis quand elle a rencontré Zaché, qui dormait dehors près de la gare, elle a décidé de l'héberger chez elle.
Arrivé à Besançon, il avait ce numéro de téléphone et quand il raconte ça, il dit « ça n'a jamais répondu ». Il a essayé plein de fois de téléphoner. Il comprenait pas, lui, il était venu ici parce qu'on lui avait dit « mais on peut t'héberger ». Et puis là, ce numéro ne répondait plus du tout. Donc c'est moi qui l'ai hébergé la première pendant une semaine parce que ma fille était en voyage scolaire. Donc j'avais une chambre de libre. À ce moment-là, il était pas forcément timide, mais assez renfermé, il souriait très peu, il sortait de la rue, quoi. Il était au bout de son voyage et c'était compliqué pour lui aussi de s'y retrouver, de comprendre ce qui se passait, ce qu'il fallait faire. Et puis, il était aussi très abasourdi par l'évaluation qu'il avait eue à l'aide sociale à l'enfance, parce qu'il s'est avéré qu'on ne l'a pas reconnu mineur à cette première évaluation, donc lui n'avait pas d'acte de naissance sur lui, ni en photo, ni en rien du tout, puisqu'il expliquait que quand il est parti de chez sa grand-mère, elle ne lui confiait pas des papiers comme ça, parce qu'elle disait les enfants, ils perdent tous les papiers, donc il n'avait rien à montrer. Et c'est là qu'on a commencé tout de suite à faire son récit de vie et à réunir toutes les pièces nécessaires. Et pendant la semaine où il était à la maison, moi j'ai vraiment vu un petit garçon qui demandait l'autorisation pour tout, qui avait besoin du bonne nuit, du cacao avec tartines, jambon, tout ça, et c'était très ritualisé et les moindres bruits lui faisaient peur. Je me souviens du premier matin où moi je me suis fait du café, cafetière italienne qui fait un petit peu de bruit au moment où le café monte, et il a eu un moment de panique, mais un peu apeuré parce qu'il regardait dehors et il me disait mais il pleut, et il faisait très beau ce jour-là, et je lui dis mais non, il pleut pas, et c'est, en fait c'était le bruit de cette cafetière qui lui disait mais il y a un bruit de pluie et il pleut pas, et c'était l'affolement quoi. Voilà, il y a eu plusieurs petites choses comme ça qui font qu'on prend le temps. Pour une fois, on prend le temps, parce que on se construit pas qu'avec un accompagnement médical, un peu d'école et un hébergement solidaire. Il faut aussi du lien affectif, c'est extrêmement nécessaire. Et surtout, après ce qu'ils ont vécu, certains, et au-delà de « il lui faut ça », c'est venu naturellement, quoi. Moi, je l'ai hébergé début avril. C'était une rencontre, de toute façon, et pas éphémère, quoi. Enfin, c'est une évidence, quoi. Il disait toujours « je suis optimiste, ça va aller ». Même quand il était inquiet, il était dans la recherche d'aller mieux. Il cherchait des solutions. Il ne s'abattait pas, quoi. Il ne baissait pas les bras. Il allait avoir 15 ans là, le 10 octobre.
En situation illégale, Zaché a évidemment besoin de papiers. Janie envoie alors de l'argent à sa grand-mère, à Douala au Cameroun, pour qu'elle lui fasse parvenir un acte de naissance. Avec ce document, un appel de la décision, une demande de recours peut être déposée. La machine est lancée, il faut maintenant attendre. Pendant ce temps, Zaché est scolarisé et entre en classe de 3e. Son assistante pédagogique s'en souvient très bien.
Donc je m'appelle Delphine et je travaille au collège Camus à Besançon, dans un dispositif UPE2A, unité pédagogique pour élèves allophones arrivants, qui accueille des élèves qui arrivent en France et qui ne parlent pas français ou qui ont besoin d'une période avant l'inclusion en classe ordinaire. Voilà. Donc ma rencontre avec Zaché, il est arrivé au collège le lundi de la rentrée des vacances de Pâques. Ça devait être tout début mai, peut-être le 2 mai. Très vite, je me suis rendu compte qu'il parlait parfaitement bien français et que j'avais pas grand-chose à lui enseigner en français, qu'il était très doué, qu'il avait un très bon niveau. Donc plusieurs fois, Zaché est venu me voir pour travailler sur les histoires de fractions, avec des demandes très particulières, en me disant « mais je ne comprends pas ci, je ne comprends pas ça ». Il était très demandeur, en fait, Zaché. C'était quelqu'un d'attentif aux autres, même si parfois il était sûrement un peu plus sombre par rapport à sa situation, en fait. Il était, je pense, beaucoup dans l'inquiétude aussi de savoir s'il allait être enfin reconnu comme mineur. Ce qui allait obligatoirement changer sa situation et lui ouvrir des portes, en fait, et lui donner un statut officiel, ce qui est quand même très important. Il voulait travailler dans la soudure, donc il avait fait un stage en entreprise au mois de juin, et puis il avait eu une affectation pour la rentrée, pour faire un CAP de soudeur à Vesoul.
À la rentrée, le 2 septembre, Zaché est donc censé partir étudier à Vesoul, à 1 heure au nord de Besançon. Il ne sait pas encore où il va dormir, mais il est heureux. Son avenir se concrétise. Il retrouve aussi peu à peu sa forme physique. Il n'est plus considéré comme sous-vitaminé par le médecin et son traitement pour un reste de tuberculose touche à sa fin. Tous les jeudis soirs, il joue au foot avec le père de Janie et il se joint parfois à un groupe de patoukada. Un mois passe et en avril, la fille de Janie rentre. Elle récupère sa chambre, Zaché, son sac à dos, son chapelet et ses quelques affaires sont accueillis alors chez Jean-Jacques, un retraité de 67 ans, toujours à Besançon.
J'ai eu Zaché au mois d'avril dernier. Je me souviens, on avait rendez-vous à une terrasse de café et dans la chaise de café, comme ça, il m'avait déjà paru tout petit. Et il a 14 ans. Donc vous vous dites, oulala, 14 ans. Mais finalement, bon, alors, voilà, on a bu un coup et puis il est venu avec moi. Donc il y avait déjà 3 km pour rentrer chez moi parce que j'étais à l'autre bout de la ville. Il m'a dit, ne vous inquiétez pas, vous savez, là-bas, pour aller à l'école, je faisais 6 km à pied pour aller, 6 km pour revenir. Et je me dis, bah, il a 14 ans. Moi, à 14 ans, j'étais un gamin. Je veux dire, j'étais un gamin qui pense à jouer. Bon, voilà. On joue aux Indiens, aux gendarmes et aux voleurs. On commençait à peine à regarder les filles. Bon, voilà. Mais ce qui m'a bousculé, moi, c'est Zaché, c'est sa solidité apparente. Et je me suis dit, après, j'ai dit, bon, voilà le petit gars, là. Il a le pied à l'étrier, il va être pris en charge par l'ASE, et je suis sûr que celui-là, il est capable de réussir. Et puis, après, je ne l'ai plus revu, et voilà.
En fait, si. Jean-Jacques et Zaché se revoient une fois, le 20 juin, pour regarder ensemble la Coupe du Monde de foot féminin. Cameroun-Nouvelle-Zélande, victoire du Cameroun 3-0. Car le troisième bénévole qui accueille Zaché, quelques semaines plus tard, n'a pas la télé.
Il avait les dents du bonheur.
Il s'appelle Frédéric. Il était prof de maths.
Il était pas très
il a
grand,
tout arrêté pour la musique.
Quand même un peu baraque,
il a 42 quoi. Ans.
Athlétique.
Il vit avec trois chats.
Une espèce de loft.
Et plusieurs vélos sont posés au pied de son escalier.
Il y avait le vélo de Zaché, là, du coup, qui était avec les tas de vélos. Donc on avait décidé de lui faire une chambre à côté dans le salon où il y a une espèce de petite alcôve, donc on pouvait. Puis il y a un écran là pour regarder des films, donc ça faisait comme une pièce à part entière. Voilà. Alors moi, il est arrivé le 11 avril chez moi. Il parlait beaucoup de sa grand-mère, et puis du coup, un coup, on a regardé sur Google Earth pour retrouver son village, parce que son village, c'est PK21. C'est-à-dire, ça dépend de Douala, qui est une grande ville du Cameroun. Il n'y avait pas forcément de temple à PK21, du coup, il fréquentait l'église catholique, si j'ai bien tout compris. Mais voilà, du coup, lui, il était quand même pratiquant et donc il nous prenait pour une bande de mécréants, hein, mais pour ça, on le branchait pas trop là-dessus. Puis pendant ces mois-là, c'est vrai qu'il a aidé beaucoup au jardin. Il se levait tôt aussi et puis il m'aidait à couper les herbes et tout, à faire le jardin. Et un jour, du coup, je lui ai dit, fais attention parce que ça et ça, il faut pas couper. Puis il avait coupé tous les framboisiers. Ils ont repoussé finalement plus vite qu'on ne pensait. Voilà.
Le 3 juillet... Après 4 mois passés à Besançon chez des bénévoles, Zaché est reconnu comme mineur. Il a bien 14 ans. Il peut disposer des aides de l'aide sociale à l'enfance, chercher un logement, une chambre d'hôtel ou être pris en charge dans une famille d'accueil. Une situation stable, plus légère, moins tourmentée donc. Janie, Delphine et Frédéric, tous se souviennent de la bonne nouvelle.
Donc à partir de là, donc sa situation s'éclaircissait totalement parce qu'en fait il attendait ça quoi. Des fois, on lui disait « oui, il manque ça, il faut ci, il faut ça ». Enfin, donc, il avait toujours peur d'une mauvaise nouvelle qui allait lui tomber sur le coin du nez. Donc ça, c'était une libération parce que vraiment, il attendait après ça. Quoi. Par contre, ce qu'on s'était dit avec Zaché, c'est que c'était bien de l'avoir à la maison. Et donc, il fallait que je fasse une proposition d'hébergement élargi. Voilà. C'est-à-dire qu'il puisse venir quand même le week-end quand il n'était pas en cours. Donc c'était ça qui se mettait en place.
Il disait facilement qu'il voulait une vie tranquille, qu'il voulait un bon travail, qu'il voulait 3 enfants, qu'il voulait 2 filles et un garçon, mais qu'il avait le temps, mais que voilà, c'était très serein. Et il se trouve qu'on pouvait y croire, et en plus, comme a priori, tout se passait plutôt, plutôt bien. Bon, c'était pas tout facile, tout se déroulait pas nickel, mais au final, tout se passait, tout avançait, chaque démarche aboutissait.
L'année scolaire de Zaché se termine pleine de promesses.
Il est venu aussi le dernier jour de classe, l'avant-dernier jour, parce qu'il voulait du travail pendant l'été pour progresser en mathématiques. Donc je lui avais trouvé un livre de 6e au CDI que la documentaliste m'avait donné parce que c'était un ancien manuel. J'avais fait des tas de photocopies, je lui avais trouvé des liens sur Internet pour qu'il puisse travailler par lui-même. Et voilà, donc il était venu le jeudi 4 juillet, avant les vacances. Les élèves étaient déjà plus dans l'établissement en fait. Il était très content d'avoir du travail pour l'été.
Et pour finir son année en beauté, Zaché réussit même à avoir une place dans une colo, à une demi-heure de Besançon, du 12 au 27 juillet. Elle est organisée par l'association Les Beaumottes, qui s'occupe de jeunes migrants. Il y a des excursions, des activités théâtre, de la radio et des chantiers pour rénover le patrimoine bisontin. Les jeunes sont 13, 3 parlent français. Zaché choisit l'atelier théâtre. Mamadou, lui, il a 18 ans. Il devient très copain avec Zaché pendant le séjour.
Et là-bas, j'ai rencontré Zaché. Parce que nous, les Noirs, quand on voit un Noir, on s'approche de lui, on lui demande « Ah, tu es de quelle nationalité? Tu es d'où ?» Il a dit « Lui, il est de Cameroun. » On a commencé à causer là-bas, on s'est échangé de numéros. Du coup, moi, je faisais la radio, lui, il faisait le théâtre. Le jour que j'ai quitté là-bas, on a mangé ensemble, du coup. Et ça, c'était le 24 juillet. Et moi, je devrais quitter là-bas.
Le 24 juillet, 3 jours avant la fin, il fait très chaud sur le camp. Alors les animateurs programment une sortie au domaine de Bonal, à 30 km de là. C'est une base de loisirs de 150 hectares avec 5 lacs, mais seul un plan d'eau est réservé à la baignade, au pédalo et au paddle. Il y a aussi une zone de pique-nique et possibilité de faire de l'acrobranche, de la pétanque, du tennis et du VTT, comme le raconte Frédéric, le troisième à avoir hébergé Zaché.
Et bah du coup, le 24 juillet, ça faisait donc 12 jours qu'il était en camp. Je savais que ça se passait bien, donc on s'envoyait des petits messages. Et puis, il y avait aussi une pièce de théâtre pour le rendu qui devait se dérouler le 25 juillet. Donc, je lui demandais un peu les derniers messages. Je lui dis, donne-moi l'heure, s'il te plaît, pour savoir quand est-ce que va être la pièce de théâtre le jeudi, quoi, le 25 juillet. Donc, le 24 juillet, j'étais chez des amis. Et puis, du coup, je vais chercher mon téléphone et là, je vois qu'on m'a beaucoup appelé. Et donc, j'écoute au répondeur et puis donc je vois que c'est donc la directrice du centre qui me dit qu'il y a eu un problème. Et puis donc, j'ai pas eu le temps de réfléchir, j'ai rappelé tout de suite. Puis donc, c'est là que une des animatrices donc m'a dit, il y a eu un problème, il y a eu un accident. Et en fait, là, c'était le moment de la canicule, donc il faisait chaud, donc ils sont allés se baigner dans une base de loisirs qui était à côté du centre. Donc le lac Bonal, à côté de Rio, une ville de Haute-Saône. Ils sont partis, je crois, vers 14h et puis... Ils sont allés dans l'eau, je crois, avec deux de ses camarades, deux ou trois. Il est retourné à sa serviette poser son téléphone. Et puis après, je crois que les camarades l'ont pu revu. Je pense qu'ils étaient un peu en quartier libre, en fait. Puis après, en fait, c'est au moment de se retrouver, de retrouver tout le monde à 16h15 ou 45 qu'ils ont remarqué qu'il n'était plus là.
Que s'est-il donc passé précisément entre 14h et 16h15 au lac de Bonal, en Haute-Saône, ce 24 juillet. C'est ici que les versions divergent et que le flou prédomine. Et c'est pourtant là que tout bascule dans la vie de Zaché. Le procureur de la République de Vesoul, Emmanuel Dupic, a quelques éléments.
Nous savons que ces jeunes arrivent sur le site à 14h30, que dès 15h15, il y a des recherches qui sont établies parce qu'on n'arrive plus à leur trouver. Et donc une enquête a été faite par la gendarmerie de Rio, qui quand même pointe des interrogations importantes. Des interrogations importantes quant à l'action des deux maîtres nageurs sauveteurs qui étaient présents sur le site, quant à l'action des 5 moniteurs qui encadraient ce camp de jeunes. Ils s'occupaient du suivi de 13 jeunes, qui étaient dans le même profil que notre victime. Et puis finalement, les secours ne seront appelés qu'à 18h35. Et dès leur arrivée, effectivement, une heure plus tard, le corps, malheureusement, sera découvert.
Comment Zaché a-t-il pu se noyer dans une zone de baignade de 3 mètres de profondeur à 10 mètres d'un poste de surveillance? S'est-il noyé parce qu'il ne savait pas nager? Parce qu'il a eu un malaise? Parce qu'il n'était pas informé du danger? Le procureur penche rapidement pour un défaut de surveillance.
Effectivement, c'est que déjà il n'y a pas de diplôme ou des diplômes qui ne sont plus valables pour le maître nageur sauveteur, d'une part. Et puis nous interrogeons effectivement sur la surveillance effective qui a été réalisée par ces moniteurs. Donc ce sont ces nombreuses interrogations qui nous conduisent bien sûr à ouvrir une information judiciaire contre X aujourd'hui pour homicide involontaire et également pour non-assistance à personne en danger. Alors c'est tragique, et vous l'avez compris, il est décédé la veille en fait de la fin de ce camp.
Dans l'entourage de Zaché, chacun y va de son hypothèse. D'abord Mamadou qui était avec lui quelques heures avant.
Je pensais que c'était faux quoi, Parce qu'on se sépare à 13h, toi tu reviens chez toi à 18h, on te dit que ton ami est mort. Ça, c'est incroyable. Difficilement que moi je crois ça. Moi je l'ai laissé, il était cool, il était tranquille. Ils m'ont appelé ici. Ils m'ont dit que Jaché est mort, mais je n'arrive pas à croire. Si j'étais petit comme Jaché, j'allais me noyer là-bas. Parce que c'est très profond là-bas. Il y avait une corde au milieu. Je ne sais pas c'est combien de mètres, 15 mètres comme ça. Tout s'est écrit, mais peut-être lui, il n'a pas bien vérifié ça. Il n'a pas bien lu les mots qui sont écrits sur les plaques là, quoi. Sa mort m'a beaucoup touché. Comme si c'était un frère de même mère ou même père comme ça. Je ne vais jamais oublier Jaché. Je ne peux pas parler beaucoup, mais il y a les larmes qui veulent couler sur mes yeux, quoi. Merci.
Frédéric, ouais. Lui, essaie de garder la tête froide pour comprendre.
Je me souviens que je lui avais demandé s'il savait nager et je me souviens qu'il m'avait dit que oui. Comme il m'avait dit qu'il savait faire du vélo. Moi, j'ai pensé du coup plus à un malaise qu'autre chose parce qu'il y avait quand même du monde dans ce lac ce jour-là. Si quelqu'un se débat dans l'eau, ça devait se voir. Donc, en fait, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, quoi. Donc, s'il a eu un malaise ou enfin ou ça, on ne sait rien, quoi. Donc, oui, accident probablement, mais bon, j'ai pas trop. J'arrive pas à dire accident. Voilà, c'est effectivement, les animateurs n'ont pas fait leur travail ou si les maîtres nageurs n'ont pas fait leur travail, je sais pas. Après, je me dis, voilà, si c'est un malaise à la con, on peut rien y faire, quoi. Hydrocution. Voilà, j'ai pas de. J'essaye de pas trop réfléchir à ça, en fait.
Delphine et Jeannie, elles, se demandent si tout ça aurait pu être évité.
Les premières idées, images que j'ai eues étaient comment c'est possible. Et après, tout va très vite, c'est-à-dire que j'ai retracé comme si on pouvait corriger cette erreur. Et moi, je lui ai même dit, prends bien ton maillot de bain que je lui avais acheté parce que là-bas, il y aura peut-être des possibilités de se baigner. Enfin, tout ça, évidemment, quand on m'a annoncé sa mort, c'est revenu très, très vite en me disant, c'est moi qui l'ai emmené, je lui ai fait prendre son maillot de bain. Et je lui ai demandé s'il savait nager, il m'a répondu un petit peu. Je savais qu'il n'avait pas été beaucoup dans l'eau, c'est-à-dire que les occasions d'avoir été dans l'eau, c'était quand il a rejoint le Zodiac pour traverser la Méditerranée, donc il fallait plonger dans l'eau pour monter sur le bateau, c'était quand il était en Italie, il a été 2-3 fois dans la mer, quoi, mais c'est pas de la nage proprement dite. Et je lui ai parlé, il y avait la rivière, il y a l'Ognon, une rivière qui passe juste derrière ce centre dans le village, et disant attention, la rivière, et il m'a dit... Ne t'inquiète pas, on nous a dit que la rivière, il y avait du courant, etc. Ça pouvait être dangereux, donc je n'irai pas me baigner dans la rivière. Sur l'accident lui-même, sur la noyade en elle-même, j'ai pas vraiment de mots parce que c'est pas, je n'en sais rien et je me risquerai pas à me diriger dans des ressentis après d'injustice et tout ça, parce que ça peut arriver un accident, ça peut arriver partout à tout le monde. Et l'association qu'il a accueillie en stage à Beaumont, c'est pareil, c'est que des gens extrêmement soucieux d'intégrer et de faire vivre des choses à ces gamins migrants. Et j'ai déjà encadré des groupes en bord de lac et tout ça, c'est très compliqué. Tout le monde essaye de faire au mieux et voilà, ça peut arriver quand même. Et que ce soit seulement des associations qui s'en occupent, oui, c'est rageant, oui. Ouais, c'est très enrichissant de le faire, mais c'est pas normal que ce soit fait par des bénévoles tout le temps, quoi. C'est beaucoup de boulot. Qu'il y ait une enquête sur la surveillance qu'il y a eu à ce moment-là, bien sûr, qu'il y ait eu... mais au-delà de tout ça, on se dit, de toute façon, ça ne changera rien. Et évidemment qu'un accident, c'est de toute façon injuste, si on veut, enfin injuste dans le sens où, voilà, c'est pas explicable, il n'y a pas de raison dans tout ça.
Est-ce que je comprends ? Ben non, j'ai un peu de mal à comprendre que dans un lieu sécurisé, surveillé, encadré, que quelqu'un puisse disparaître et qu'il puisse se passer tant de temps avant qu'on appelle les secours, qu'on fasse vraiment des recherches. Et non, j'ai du mal à comprendre. Après, voilà, c'est comme ça, mais c'est vrai que pour moi, c'est vraiment, après avoir réussi à traverser la Méditerranée, se noyer comme ça, c'est quand même... C'est injuste, ça me paraît, enfin, c'est injuste pour tout le monde. C'est choquant, en fait.
L'enquête de police est en cours. Elle devrait déterminer les causes précises de la noyade. En attendant, l'émotion est grande chez tous. Tous ceux qui ont connu Jaché, comme Jean-Jacques.
Là, je dois vous avouer que, bon, moi, l'émotion m'a submergé. J'ai chialé toute la soirée, quoi. Bon, vous ne pouvez pas lutter, quoi. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Tout dans la tête, là, ça tournait à une vitesse. Vous dites, ce gamin là qui est parti de chez lui à 14 ans, et qui ne s'est pas noyé dans la Méditerranée, et puis qui vient se noyer, j'allais presque dire, comme un con. Dans cet état, en plus, je savais qu'il m'avait dit qu'il ne savait pas nager, donc, et je ne sais toujours pas ce qui s'est réellement passé. Mais je ne veux plus non plus me mettre en colère. Oui, j'ai un peu les larmes qui me viennent aux yeux. Et curieusement, quand il était vivant, je ne retenais jamais son nom.
Ah bon ?
Et, non, parce que je ne sais pas pourquoi. C'était un peu compliqué. Et maintenant, je sais que c'était Otto Kumata. Je les retiens très bien, voilà, Otto Kumata. Oui, je ne suis pas obligé de réfléchir. Son nom vient, c'est quand même idiot. C'est quand même idiot tout ça, voilà.
Pour sa tenue, on va dire, de sa dernière demeure, on a choisi une tenue de foot que mes amis avaient achetée. Un chapelet, du coup, qui va être autour de ses mains. Et puis après, il y avait des petites réalisations en marqueterie là, qu'il avait faites... dans une association là qu'on va essayer d'envoyer à la famille. Et puis avec les bulletins scolaires, parce qu'il a eu un bon bulletin, tout ça. Enfin, tout ce qui a été positif, tout ce qu'il a fait, les photos, les vidéos, d'envoyer ça à la famille, quoi. Zaché est parti du Cameroun en janvier 2018. Et donc voilà, il retourne vers les siens donc en août 2019. C'est pas l'ironie du sort, c'est le cynisme du sort, quoi. C'est-à-dire, c'est, même si t'es arrivé, ben, t'es jamais arrivé, en fait. Ça donne du sens, ça donne du poids à ses existences, quoi. Wom babi kolol, babi kos, babi pou, babi tem, babi pel, babil. Wom babi holos, babi pan, babi ke, ne wo. Babi tar, babi tem, lingen. Nyukini chelongi porol, nyukini choroni yomatai, nyukini sros longi porola, mbai divi soros, divi lo divi le miyo, divi on divi sem niyo. Divi pos, divi on, divi quiz, niyo. Divi lo, divi soros, niyo. Nyuki ni che longi porol, nyuki ni chol, niyo matai. Nyuki ni soros, longi porola. Nyuki ni che longi porol.
C'était La vie de Zaché, reportage Valérie Borst, réalisation Clémence Gross. Merci au collectif Sol Miré, à tous les bénévoles, à Noël, Janie, Delphine, Jean-Jacques, Frédéric, Mamadou. Merci également à Jean-François Fernandez de France Bleu Besançon. Mélanie Fou, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre en ce moment. Et Lorenzo Cucchiaro, c'est notre stagiaire.